Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin après quelques semaines de pause dans cette première édition de votre magazine de l'année 2024. Nous rappelons que chaque samedi, à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Madame Élisée Odia, elle est journaliste indépendante. Bonjour Élisée Odia.
Bonjour Guy Maté, bonjour aux auditeurs de la Radio Okapi et bonne année à vous.
Merci pareillement. Albert Kyungu, membre de la société civile, il est coordonnateur du conseil régional des organisations non gouvernementales de développement au Kassai Central. Et bonjour Albert Kyungu.
Bonjour Guy Maté, bonjour coordonnateur, bienvenue à tous nos auditeurs.
Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Hubert Leclerc, il est journaliste au journal La Libre Belgique. Bonjour Hubert Leclerc. Hubert Leclerc, est-ce que vous êtes là? Voilà, apparemment il n'est pas encore là. Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation d'Élisée Odia, journaliste indépendante, Albert Kyungu, membre de la société civile. Il est coordonnateur du conseil régional des organisations non gouvernementales de développement au Kassai Central et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Hubert Leclerc. Il est journaliste au journal La Libre Belgique. Au menu de cette émission, quel est le rôle pour l'opposition dans la prochaine Assemblée nationale, le deuxième mandat de Félix Tshisekedi et les attentes de la population congolaise? Enfin, focus sur la Coupe d'Afrique des Nations. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire sur cette réunion qui s'est tenue lundi dernier à Goma dans le cadre du déploiement de la force de la SADC. En effet, les responsables militaires des FARDC et ceux de la force de la SADC se sont réunis à Goma au Nord Kivu lundi dernier dans le cadre de la planification des opérations conjointes. À cette réunion, les FARDC ont été représentés par les commandants des opérations au Nord et Sud Kivu et commandants de la force terrestre de la RDC, le lieutenant général Falsi Kabwe. Selon le général Falsi Kabwe, qui s'est exprimé à l'issue de cette rencontre, la force de la SADC vient opérer aux côtés des FARDC avec un mandat offensif contre les rebelles du M23. Pendant ce temps, dans un communiqué publié mercredi dernier, les M23 ont annoncé la mort des deux de leurs commandants sur les fronts dans une attaque attribuée aux FARDC. Cette rébellion dénonce ainsi ce qu'elle qualifie de violation du cessez-le-feu par les FARDC et promet de riposter. Élisée Odia, c'est au mois de décembre dernier que la force de la SADC a commencé son déploiement dans le Nord Kivu. Et là, on parle de la réunion des responsables militaires des FARDC et ceux de la force de la SADC pour planifier des opérations militaires conjointes. Que vous inspire ce qu'on peut qualifier de nouvelles donnes dans la crise de l'Est du pays?
Est-ce que c'est une nouvelle donne? On sait que la SADC a toujours été très impliquée s'agissant de la sécurité de la RDC en général et de sa partie Est depuis plusieurs années. Mais c'est vrai que les 5 dernières années ou 2-3 trois dernières années de la première législature ou du premier quinquennat du président Tshisekedi, trois premières d'ailleurs années, on l'a vu qu'il était un peu, la SADC était un peu écartée de tout ce qui s'est passé dans la partie est du pays, parce que je crois que le président de la République, qui a été réélu, du reste, a voulu essayer la donne de l'Afrique de l'Est. Donc on peut parler d'un retour, peut-être d'un retour en force de la SADC en République démocratique du Congo. Je crois que peut-être c'est un retour qui va se prouver également, dont on aura peut-être la confirmation avec la cérémonie d'investiture de Félix Tshisekedi pour son deuxième mandat, parce qu'on apprend qu'il y aura pas mal de présidents venus des pays de l'Afrique australe qui vont répondre présents, mais on essaiera de voir. Donc la SADC s'est toujours impliquée dans tout ce qui se passe dans la situation sécuritaire, dans la partie est du pays, et c'est toujours une sous-région, à mon avis, qui a toujours inspiré confiance aux Congolais. Peut-être parce qu'ils sont éloignés, en tout cas la plupart des États de pays de la SADC sont éloignés de nous et qui ne sont pas directement impliqués dans le conflit au niveau de la sous-région du Grand Lac, et d'où ce côté un peu distant de ces pays de la SADC par rapport à la crise dans l'est du pays, a toujours suscité une certaine confiance dans les chefs des Congolais et fait en sorte que les Congolais ont toujours eu confiance à la SADC pour intervenir. Donc, surtout que quand on suit la SADC et dit qu'elle a un mandat offensif, c'est tout ce qu'attendait le Congolais. On l'a vu avec la MONUSCO qui n'avait pas ce mandat offensif pour arriver à bout des différents groupes rebelles dans cette partie. On l'a vu avec les IAC qui, à tâtons finalement, a commencé à essayer un peu de maintenir le statu quo. Le Congolais n'avait pas besoin de ça. Et là, on a une force de la SADC qui vient avec une résolution, avec une décision claire et nette. Nous sommes là pour combattre. Nous sommes là pour dire stop à l'aventure de certains. Nous sommes là pour aider les Congolais à retrouver l'intégrité et l'intégralité de leur pays. Mais il ne faut pas qu'on se leurre, tous ces pays qui envoient les troupes ici, c'est pas forcément pour les beaux yeux des Congolais. Donc il y aura une sorte de contrepartie en retour. Et c'est là où moi j'attends le gouvernement congolais qu'on nous dise: la SADC est là, elle a une mission offensive, elle arrive au moment où la MONUSCO est en train de faire ses bagages. Ok, c'est bien, elle a cette volonté d'en finir avec les différentes rébellions et surtout le M23 dans cette partie. Ok, c'est bien, mais en contrepartie, qu'est-ce que le gouvernement congolais donne en contrepartie? Parce que nous faire croire que la SADC, elle vient parce qu'elle aime les Congos, elle aime le Congolais, elle aime... non, je crois que c'est ça, ce dessous de carte que moi j'ai besoin de connaître, cette transparence autour de l'arrivée de la mission de la SADC, autour de l'arrivée des forces de la SADC. Moi, j'aimerais bien savoir, et j'espère que les autorités de la RDC seront transparentes sur la question.
Merci Albert Kyungu, vous avez suivi Élisée Odia qui insiste, n'est-ce pas, sur la contrepartie congolaise hein, par rapport à cette arrivée, n'est-ce pas, de la force de la SADC. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à cette préoccupation? Les forces de la SADC viennent juste pour nos beaux yeux ou bien il y a des dessous des cartes?
Merci beaucoup. Entre les États, il n'y a pas tellement d'amitié, ce sont relations d'intérêt. Ça, c'est connu, qui doivent être tout à fait clarifiées, et savoir les dividendes que nous tirons là-dessus. Mais nous pensons que, avec la question de l'insécurité à l'est de notre pays, ça devient de plus en plus, au-delà de ce que ça nous apporte comme traumatisme, une question de honte. C'est une question de honte à tel point que, bon, on sent et fait erreur, on tente avec l'EAC, on tente des dialogues comme ça, on tente, mais là on est avec la SADC. J'estime pour ma part que les interventions de la SADC dans notre pays, c'est une histoire d'amour. pour ne prendre que le passé récent, on se souviendra de l'accord de cessez-le-feu entre plusieurs composantes en 1999, 2000, avant d'aller à chose. Donc, ce qui avait de sécuriser les zones poupons, c'était les forces de la SADC avant que la MONUSCO se déploie et la suite continue. Après l'accord de cessez-le-feu de Lusaka, il s'en est suivi, l'accord global inclusif en 2002 en Afrique du Sud, et on voit comment la SADC dans son ensemble a gagné ce processus dans notre pays. Et aujourd'hui, après avoir tenté ça et là, enfin ça ne tient pas, et qu'on revient avec la SADC qui revient au pays, nous pensons, comme disait le président Hachem Mobutu, qui disait que pour ce qui est de l'unité et de la paix au Congo, même s'il faut conclure les accords avec les diables, je le ferai. Donc nous pensons pour la paix à l'est du pays, la SADC est une alternative plus ou moins crédible, et les peuples congolais attendent beaucoup de la SADC avec un mandat un peu plus différent du mandat qu'avait l'EAC. On souhaite finalement, comme fin à cette guerre, qui devient une guerre en plus de traumatisme, ça devient une guerre de honte. Ce ne sera que trop duré. Et donc, ça, ce sont les grandes attentes. Et nous estimons que la SADC apparente à une alternative plus ou moins crédible au regard de cette histoire qui nous lie, une histoire tout à fait d'amour avec notre pays.
Merci. Hubert Leclerc, vous êtes là?
Oui, tout à fait.
Voilà, on n'a pas eu d'occasion de se saluer. Bonjour.
Bonjour, Guy Mathieu.
Voilà, nous parlons donc de cette réunion qui s'est tenue lundi dernier à Goma entre les responsables militaires des FARDC et ceux de la force de la SADC pour mettre en place, n'est-ce pas, une sorte de planification des opérations conjointes. On sait que l'expérience vécue avec la force de l'EAC fait que beaucoup de gens semblent dubitatifs quant à la capacité de la force de la SADC de pouvoir aider la RDC à récupérer, n'est-ce pas, les territoires qui sont occupés par la rébellion, même si on sait que, comme Élisée Odia l'a rappelé, Albert Kyungu l'a rappelé aussi, l'histoire de la SADC avec la RDC, c'est une histoire d'amour. Chaque fois qu'on parle de la SADC, les gens semblent avoir confiance, n'est-ce pas, en cette force. Mais vous ne pensez pas que le fait que l'EAC a dessus beaucoup de gens et que cela pourrait poser un problème par rapport à la confiance que les gens pourraient avoir sur cette force de la SADC?
Alors, il est certain qu'on part avec un a priori qui est positif par rapport à la SADC, mais je voudrais juste mettre un petit peu une interrogation par rapport au rôle de la SADC, parce que jusqu'à présent, ce qu'on voit, ce sont des contingents sud-africains. On a parlé de Malawi, on a parlé de Botswana, mais qui ne sont toujours pas arrivés. Donc on a plutôt l'impression ici que, après les forces burundaises qui sont intervenues de manière bilatérale, on a l'impression que les Sud-Africains, c'est presque de manière bilatérale aussi, parce qu'on a de réponse de nulle part. Personne d'autre, je dirais, les Zimbabwéens, les Zambiens, les Namibiens, enfin, on a de réponse, rien. Donc on voit simplement arriver des contingents que l'on présente comme des contingents issus de la SADC, mais ce sont uniquement pour l'instant des Sud-Africains. Donc moi je serais très prudent là-dessus aussi, comme je vous le disais, parce qu'on a vu qu'il y avait des accords qui ont été signés avec les Burundis. Donc ce qui est très très surprenant, c'est qu'ils arrivent seuls et qu'on ne parle que d'eux pour l'instant. Donc je ne veux pas remettre les accords en cause, loin de là. Mais je dis simplement que c'est un peu particulier de voir simplement un contingent d'un seul pays arriver, parce que si nos informations sont bonnes, ça fait un mois, grosso modo, que ce contingent a commencé à arriver, et on ne parle toujours pas d'autres pays qui devraient arriver, alors comme on le disait aussi, c'est vrai que lors de l'investiture du président Tshisekedi, d'autres présidents de la SADC seront présents, peut-être que ce sera l'occasion de mettre les choses plus à plat, et peut-être aussi qu'on aura des communications un peu plus claires sur le mandat effectif, le mandat réel, parce que ce sont de nouveau les sources congolaises qui ont parlé d'un mandat offensif. On a dit qu'ils allaient être là pour combattre les milices et les groupes rebelles. Mais je veux dire, c'est quoi être offensif? C'est quoi soutenir l'armée congolaise? C'est aller jusqu'où? Que prévoit exactement leur mandat? De nouveau, on n'a pas de réponse très claire là-dessus.
Voilà. Et à votre avis, la force de la SADC aurait beaucoup plus de marge de manœuvre que ne l'avait la force de l'EAC?
Malheureusement, j'ignore ce qui était dans ce texte de base. Il est clair que c'est plus facile, je pense, pour la SADEC d'intervenir parce que la problématique de l'EAC, c'est que vous savez comme moi qu'évidemment les deux principaux pays engagés dans ce conflit, ou en tout cas qui se font face dans le conflit, étaient tous les deux membres de l'EAC. Donc ça pose déjà un problème. Et que la SADEC n'a pas ce problème-là. Donc il est possible d'aller plus loin avec la SADEC qu'avec l'EAC.
Merci, on prend une petite pause avec les immortels de Franklin Bukaka. Comme vous le savez, la RDC a commémoré les 16 et les 17 janvier dernier la mort de ces héros nationaux, Emery et Patrice Lumumba et Laurent Désiré Kabila. On va donc écouter les immortels et on revient juste après.
Tangi maboko tozali kotala e Bana basili na kokende Bana basili na koteka mai na banguna Tola timo kuya ata malobate Congo na Panafrika maleli Afrika mabimpae Tokangi maboko Tozali kotalae Bana basili na kokende Bana basili na kote kamae na banguna Tola timo kuya ata malobate Kongo na pana Afrika baleli O medi ben baka Medi nzela na yo ya pato nyonso Medinzela na yo ya Lumumba Medinzela na yo ya Che Guevara Medinzela na yo ya Malcolm X Medinzela na yo ya Umyope Medinzela na yo ya Felix Mumye Medinzela na yo ya Nguyen Van Choy Medinzela na yo ya Tsoki Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos Medinzela na yo ya Oji ya Enda Medinzela na yo ya Camilo Torres Medinzela na yo ya Abdelkader Medinzela na yo ya Koulibaly Medinzela na yo ya André Machua Medinzela na yo ya Simon Kimpangu Medinzela na yo ya Albert Lutuli Medinzela na yo ya Boganda Oh oh, ya tiers monde Oh oh, ya libération, ya pas peuple Un vieux, que je considère toujours jeune, m'a dit un jour Mon petit, tout homme doit mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification.
C'était les immortels de Franklin Bukaka. Franklin Bukaka, cet artiste musicien qui est né le 10 octobre 1940 à Brazzaville et mort assassiné le 22 février 1972 dans la même ville après avoir été arrêté, accusé d'avoir été impliqué dans un complot contre le camarade Marien Ngouabi, ancien président de la République du Congo. Paix à son âme. On revient à l'actualité de cette semaine. Le président de la République, réélu Félix Tshisekedi, prête serment ce samedi 20 janvier au stade des martyrs de Kinshasa. Invité des radios Okapi de jeudi dernier, le directeur de communication adjoint de la présidence de la République, Giscard Koussema, a rapporté qu'au cours de cette cérémonie, le chef de l'État recevra un symbole du pouvoir politique et traditionnel des mains du premier président de la Cour constitutionnelle. La cérémonie d'investiture est un moment solennel des communions du président de la République qui est le symbole de l'unité de la nation avec sa population. Voilà pourquoi les portes du stade sont ouvertes au public, a-t-il expliqué. Giscard Koussema appelle toutes les personnes voulant prendre part à la cérémonie de venir librement au stade des martyrs. Il affirme que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour sécuriser ceux qui feront les déplacements du stade. Albert Kingou, membre de la société civile, vous êtes coordonnateur du conseil régional des organisations non gouvernementales de développement au Kassai central. Vous avez choisi, n'est-ce pas, ce sujet en mettant en exergue les attentes de la population congolaise sur le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi. On vous écoute.
Merci beaucoup. Par rapport au deuxième mandat du chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'aurais bien voulu m'en faire par les défis, mais non, il en connaît assez. Je voudrais plutôt qu'en étant dans la population, la voix de plusieurs, essayer encore de rappeler au chef ce que demande le peuple. En un mot, on pouvait lui dire, ok, il a été élu à plus de 73%, nous lui demandons d'appliquer son projet de société, son programme qu'il a vendu à la population. Comme nous sommes toujours dans un pays où il y a un écart entre ce qu'on a promis et ce qu'on réalise, nous voulons rappeler au chef de l'État que les Congolais, dans l'ensemble, ils ont beaucoup de problèmes, mais en tête d'affiche, les Congolais de l'Ouest, du Nord au Sud, au Centre, souhaiteraient encore une fois qu'on mette fin à cette nébuleuse guerre de l'Est qui n'a que trop duré. Et donc, tout en saluant déjà les efforts, la dynamique qu'il a manifestée dans le premier mandat, on souhaite qu'il aille au-delà, puisque ce qu'il a fait dans le premier mandat par rapport à la guerre de l'Est, ça a montré des limites. Nous avons salué un discours de fermeté lors de sa campagne, ses engagements vis-à-vis de la guerre de l'Est. Voilà. Nous souhaitons, les Congolais, que, avec ce deuxième mandat, qu'on mette fin à cette guerre qui n'a que trop duré. Non seulement ça crée des dégâts, des pérennes, mais au-delà, ça devient une guerre de la honte. Alors, de façon encore générale, les Congolais, bon, ils ont élu le chef de l'État, et on a des députés consorts, donc ils ont besoin de voir les sociales. Les sociales des citoyens congolais s'améliorer. C'est vrai que dans le premier mandat, on a vu les chefs actionner tel bouton, on a vu un peu la gouvernance, la lutte contre ceci, ça. Mais les sociales, on sent que ça balance encore. À ce niveau, on voudrait qu'on passe déjà au-delà de ce qu'on a fait, ça et là, qu'on améliore les sociales, les pouvoirs d'achat, ce que les fonctionnaires, les enseignants, donc les paysans au village. Donc son niveau de vie, tout ce qui peut être fait pour améliorer son niveau de vie, qu'il se sente à l'aise chez lui, qu'il se sente fier d'être chez lui, avoir élu un nouveau chef de l'État.
Albert Kingou,
ce discours. Oui, monsieur lui.
Vous qui êtes dans l'espace Kassai, ce que vous avez évoqué là, c'était de manière générale, c'est les attentes de la population congolaise en général, mais en ce qui concerne les populations qui vivent dans l'espace Kassai, quelles sont les particularités, n'est-ce pas, de cette population? Qu'est-ce que ces populations attendent du deuxième mandat du chef de l'État?
Ah, merci beaucoup. La population de l'espace Kassai ne souhaite pas tellement de faveurs particulières, on dirait l'injustice, mais on souhaiterait qu'on puisse sortir cet espace du gouffre. L'espace Kassai, on connaît depuis des années, c'était un gouffre dans les gouffres, c'était un point noir au sein du pays. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Et donc, ce qu'on demande, les Kassaïens demandent au chef de l'État à ce moment, c'est de concrétiser sa volonté. Il l'a promis, il sait qu'il est en train, il ne l'a pas réalisé. Ce sont les infrastructures socio-économiques de base qui manquent cruellement dans les Kassaïens. C'est impossible, une même zone. Les infrastructures. Donc, nous avons là les routes nationales qui relient ces provinces. Mais aussi, il y a une route de l'espoir, on se fera de l'église. Et donc, nous avons besoin de la connexion avec les mers vers l'océan, en passant par la route de Kalamba-Mouji. Dans l'espace, on appelle ça la route de l'espoir.
Merci.
Donc, toutes les provinces du pays sont connectées à l'extérieur, mais nous, nous devons passer par 4, 5, 6 provinces avant de communiquer avec l'extérieur. Donc, les infrastructures routières, l'électricité, rien ne peut tourner sans l'électricité. Le projet KPND, c'est devenu un monstre, on ne sait pas par où commencer, terminer.
Merci.
Nous avons besoin d'électricité d'où qu'elle vienne. Et donc, les projets agricoles, l'espace Kassai, au-delà du diamant, et de la location agricole.
Merci. Merci à vous. Merci, on a compris Albert Kyungu. Élisée Odia, vous êtes journaliste indépendante. Lorsque vous parcourez les territoires nationaux, c'est là que vous vous rendez compte, n'est-ce pas, que la RDC est un vaste chantier à tous les points de vue. Mais parce qu'on ne peut pas tout faire au même moment, à votre avis, quelles pourraient être les priorités auxquelles les chefs de l'État devraient s'attaquer d'abord?
Alors, moi, je rejoins totalement ce que vient de dire mon prédécesseur aussi par rapport aux routes. Mais déjà, je voulais rebondir par rapport à quelque chose qu'il a dit bien avant, en disant, par exemple, que le chef de l'État a eu pendant la campagne à présenter son projet de société. Je pense pas tant ça, que le président n'a pas eu le temps. La campagne du président, c'est vrai, c'était plus fort, plus uni, plus prospère, mais c'est pas vraiment autour de ça qu'il a axé sa campagne. Sa campagne, on le sait, c'était axée sur une thématique bien précise, ou deux thématiques principalement, c'est-à-dire la guerre dans la partie est du pays, en condamnant la guerre d'agression du Rwanda, bien entendu, mais également le côté où il dit étranger. C'était autour de ça que le président a battu sa campagne. Donc, ça fait que moi, j'attends vraiment son discours d'investiture avec impatience, parce que c'est là que je connaîtrai maintenant la direction que le président Tshisekedi compte donner au pays, pour la simple bonne raison que non seulement qu'il a été réélu, mais qu'il risque d'avoir la majorité absolue, parce que comme vous pouvez le voir, on va vers une assemblée nationale un peu à la chinoise ou à la russe, où il y a l'UDPS et ses alliés risquent d'avoir la majorité plus qu'absolue. Quand je parle des alliés, je ne vois pas les alliés de l'Union sacrée, je vois plus les partis, les groupes alliés à l'UDPS qui n'ont rien à voir avec la FDC par exemple, ou le MLC, qui ensemble n'arrivent pas à atteindre 100 députés. Donc pour dire que nous sommes en train d'aller vers une gestion totale et intégrale du pays par l'UDPS, et on attendait cela. C'est vrai qu'en 2018, il y a eu la coalition, et beaucoup de choses, selon certains, ne se sont pas faites parce qu'il y avait des gros conjoints, parce qu'il y avait une mésentente au sein de la coalition. Mais aujourd'hui, on se dit, ok, puisqu'on tend vers cela, une quasi, la majorité du Parlement, que ce soit peut-être, on va attendre ce que sera le Sénat, on verra également ce que sera les assemblées provinciales, mais déjà au niveau de l'Assemblée nationale, où on aura, c'est à partir de là qu'on aura le gouvernement, on peut dire que l'UDPS est bien parti pour avoir la gestion totale du pays. Donc, du coup, je reviens en disant que j'attends, moi, le discours d'investiture du président de la République pour nous dire comment est-ce qu'il compte rendre le pays plus fort, plus prospère et plus uni. Et c'est là où je veux maintenir également plus uni. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez la guerre à l'Est qui nous a coupé d'une partie des territoires de notre pays. Ça fait des mois, plusieurs mois, plus d'une année que nous ne pouvons pas aller dans certains territoires situés dans la partie est du pays. Donc le Congo n'est pas uni. Dans son espace géographique, ça manque d'unité. Mais autre chose plus unie, en parlant de son programme du président de la République, c'est, on a effleuré la question, c'est le tribalisme. Je reviens, je crois avoir dit ça une fois sur vos antennes, je le disais en 2018 ou en 2019, le plus grand échec du président Tshisekedi risquerait d'être l'exacerbation du tribalisme. Le tribalisme, pour moi, je ne vois pas en termes de nomination. Il a nommé tel ressortissant parce qu'il ne peut pas nommer tout le monde. Nous sommes 450 ethnies, tribus. Je ne vois pas le président de la République mettre en place un gouvernement de 450 ethnies ou même s'entourer des 450 ethnies au niveau de son bureau. Je ne le vois pas. Donc, on parle du tribalisme. À mon avis, c'est ce ressenti-là que certaines communautés ont à l'endroit des autres. Et je crois que ça s'est exacerbé pendant son quinquennat. J'attends de voir comment le président compte s'y prendre pour essayer de réunifier ce Congo pour qu'il n'y ait plus, ce serait exagéré, mais qu'il y ait cette baisse, ce baisse de ce ressenti-là, que les ethnies, que les tribus, que les provinces ne se regardent plus en chasse-faïence, qu'on puisse recomposer, reconstituer, reconstruire ce Congo plus uni, comme il l'a promis. Bref, pour terminer, je dirais, vous m'avez posé la question sur les routes, sur l'espace territorial, plus uni, c'est effectivement unir le pays à travers des routes. Petite anecdote, moi je fais Abidjan jusqu'au San Pedro. Je suis arrivée ici, je l'ai fait par bus. Je suis en Abidjan et vous avez vu qu'il y a des Africains qui mettent le paquet pour essayer de réunifier leur pays. Donc on ne peut pas parler d'un pays plus uni s'il n'y a pas cette intégration nationale, si on n'arrive pas à réunifier le pays, surtout par la voie routière. Donc pour moi, la priorité c'est ça, réunifier le pays, un Congo plus uni, qui permettra à l'actuel chef de l'État qui a été réélu d'aborder justement des questions d'ordre social. Merci. Et nous permettre d'atteindre le développement.
Merci. Hubert Leclerc, journaliste au journal La Libre Belgique. Les attentes sont aussi sur le plan politique. Hein. Vous ne pensez pas que les frustrations causées par la manière dont les élections générales de décembre 2023 se sont déroulées ont occasionné une crise sur le plan politique, crise dont la gestion, n'est-ce pas, nécessiterait certaines initiatives?
Alors, il est clair que la majorité, elle est acquise au pouvoir, mais il est clair que il y a quand même des blocs et qu'il y a quand même pas mal de fractures, en effet, qui sont nées de cette, on va dire, cette drôle d'élection qui a fait naître beaucoup de tensions, beaucoup de suspicions, beaucoup de... Oui, de tensions, on va dire, entre les partis, même entre les partis de la majorité. Donc, en effet, il est clair qu'il va falloir qu'il pose des gestes, et comme le disait ma collègue juste avant moi, il est évident qu'aujourd'hui, il ne peut plus se retrancher comme il l'a fait pendant les deux premières années de son quinquennat en disant « mais je n'ai pas les mains libres ». Aujourd'hui, il a les mains absolument libres, c'est à lui de prendre la balle au bon et de faire ce qu'il peut ou ce qu'il veut pour, en effet, réunifier le pays, pour réunifier la classe politique, pour pouvoir travailler pour le bien-être du pays. Aujourd'hui, il s'est donné les moyens, quelle que soit la manière dont il l'a fait, il s'est donné les moyens d'avoir une majorité écrasante et de pouvoir mener la politique qu'il a envie de mener. Donc, s'il veut le bien de son pays, il a toutes les cartes en main pour le faire.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Nous allons donc écouter cette nouveauté d'Héritier Watanabe intitulée Oponangai, et on revient juste après.
Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Prophète Dominique Kombé, la réserve de l'Éternel, Oponanga utali bumo mama na yemba kutute Ozanzamba mala mutala kama beya mutute Soki pona masumunde ubenga David nopse lonto kepe Ozanzamba mala mundambe ya wina muna na mte Soki ope si moto vision Upiaka provision Même si mes péchés sont comme des cramoisiers Ils deviendront blancs comme une neige tombe sur ta grâce. Zamba baba to, zamba malamoué, zamba malamoué. Pasteur Ken Lomba, l'apôtre du rock, n'a rien connu dans ta grande sacrifice à vivant. Dans tes parvis, mon Dieu, ça l'a un agneau solide. Que je suis, elle est qu'un amour ciment, au coup pour nana, on sait quoi pour nana, je suis elle. Allo boko y'a droite, y'a papa, au sac intercédé, mon avocat auprès du père, c'est toi.
Otika kembo ninyola tanzo kwa makumu Ponanga erindira kuma mutatu Oketo langa ya Sonia boma moto na makala aza pena twa bungure pourquoi pas na moto ya masumu
François Mutombo
santwa batwa banda kina yena lola ye kaka pona mawaki ya kufi pona nga kana meka nga kimo twa kumi pesa moto kumi kaba pona na sabo ya siku kopetola na
Regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi, à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre à quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire sur la réunion des responsables militaires qui s'est tenue lundi dernier à Goma dans le cadre du déploiement de la force de la SADC. Nous avons également parlé du deuxième mandat de Félix Tshisekedi et les attentes de la population congolaise. Participe à cette émission, Élisée Odia, elle est journaliste indépendante, Albert Kyungu, membre de la société civile, il est coordonnateur du conseil régional des organisations non gouvernementales de développement au Kasaï Central, et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Hubert Leclerc, il est journaliste au journal La Libre Belgique. Publication des résultats provisoires des élections législatives, 477 députés dont 64 femmes issues des 44 partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil des 1% ont été proclamés élus sur les 500 qui doivent siéger à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. On constate qu'aucun parti ni regroupement politique n'a pu réunir la majorité absolue des 251 députés. Néanmoins, la coalition de l'Union sacrée du président élu Félix-Antoine Tshisekedi est largement majoritaire avec plus de 400 députés. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi est le premier parti de l'opposition en tête avec 18 députés. Les autres partis d'opposition sont loin derrière avec moins de 10 députés chacun. Hubert Leclerc, que vous avez souhaité parler de ces sujets en les formulant ainsi, quel rôle pour l'opposition dans la prochaine Assemblée nationale? On vous écoute.
Oui, tout à fait, parce que j'avoue que ces résultats des élections législatives sont très clairs. En tout cas, les chiffres qu'on nous a donnés sont très clairs. Mais cela veut dire une chose, ça veut dire qu'on a, comme vous venez de le dire, et comme l'avait dit ma consoeur avant également, une majorité écrasante pour une famille politique. Alors il y a une union sacrée qui a plus de 400 sièges en effet, mais vous avez quand même une famille politique qui a à elle seule les moyens de faire grosso modo ce qu'elle veut. Et donc c'est évidemment très très dangereux, ou ça peut être également très positif, très dangereux si jamais on utilise uniquement cette famille politique et ses moyens pour mener une politique qui serait d'abord une politique tribaliste, une politique de parti, une politique qui viserait surtout à à satisfaire, on va dire, le président et sa famille. Par contre, s'il s'agit de mettre en place une vraie politique pour le bien-être du pays, ça peut être une majorité absolument exceptionnelle, parce qu'on peut appliquer tous les leviers que l'on veut avec une telle majorité. À condition, mais ça dépend terriblement du vouloir et du pouvoir d'un homme, c'est le président de la République. Donc ce qui veut dire que aujourd'hui, comme je le disais déjà précédemment, le président de la République, avec la majorité dont il s'est constitué, dispose de toutes les armes possibles et imaginables pour mener la politique qu'il entend mener en République démocratique du Congo. S'il veut mettre tous les moyens pour développer l'infrastructure, pour développer la scolarité, pour développer les soins de santé, il peut le faire. Il n'y a personne qui va l'en empêcher puisqu'il a une majorité écrasante. S'il ne le fait pas, par contre, ça veut dire que ce n'était pas évidemment son intention à lui. Donc, ça veut dire que, sincèrement, aujourd'hui, on est devant un défi et une opportunité majeure pour le Congo. Souvenez-vous de tout ce qu'on entendait pendant les deux premières années du mandat du président Tshisekedi. Je suis empêché, je n'ai pas les moyens de le faire, et ainsi de suite. Ici, il n'aura plus cet argument-là. Ici, il a tous les moyens en main pour faire ce qu'il veut. Alors, si ce qu'il veut, c'est simplement ce que l'on entend beaucoup, une modification de la Constitution pour lui permettre de rester au pouvoir, c'est triste. De nouveau, si c'est pour développer, investir dans les infrastructures, dans les soins de santé, dans le bien-être pour le Congo. Moi, je suis toujours frappé lorsque on rentre en République démocratique du Congo et que l'on vient par la route d'un autre pays. La différence est systématiquement terrible parce qu'on se rend bien compte que ce pays, les voies ne sont pas développées. Tout est à faire. Alors, le chantier est gigantesque, mais de nouveau, pour la première fois depuis très très longtemps, il dispose d'une majorité absolue. Et même l'opposition ne pourra rien faire. Vous parliez du parti Ensemble de Moïse Katumbi, c'est 18 députés. Si vous les mettez tous ensemble, les partis d'opposition, vous arrivez, selon on en croit la dernière déclaration de la CENCO, à 7%. Donc 7%, ça, on serait à 40-50 membres de l'opposition. Donc ce qui veut dire que l'opposition n'a strictement rien à dire. Qu'elle soit là, qu'elle ne soit pas là, ça ne changera rien. Et on peut même dire que s'il y a des voix qui voulaient se faire entendre au sein de la majorité, elles n'ont rien à dire non plus. Parce que si vous imaginez un petit groupe parlementaire qui oserait se lever et dire non, ça ne lui plaît pas, la majorité sera toujours là. Retirez même 50 élus, vous aurez toujours une majorité de 400 membres. Donc ça veut dire que vraiment, pour le jeu démocratique, je pense que ce n'est pas sain, et ce qui veut dire surtout que cette fois-ci, Félix Antoine Tshisekedi a les moyens de mener la politique qu'il entend mener, et que s'il ne le fait pas, ce sera le seul responsable. Donc c'est un avantage, mais c'est aussi une pression énorme qui est mise sur lui, je pense.
Voilà, mais il faut reconnaître que l'opposition continue de réclamer l'annulation de ces élections et que le parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, qui a obtenu une vingtaine de sièges, n'a pas encore levé l'option claire sur sa participation ou non, n'est-ce pas, aux travaux de l'Assemblée nationale. Et Hubert Leclerc, qu'est-ce qui se passerait si l'opposition dans son ensemble boycotte cette législature?
J'ai envie de dire rien. Sincèrement, rien. Si elle participe, mais qu'elle est juste là pour entériner des choix ou pour s'opposer de manière, j'allais dire, bête et méchante aux décisions de la majorité, ça n'a aucun intérêt. De nouveau, c'est exceptionnel. On peut se poser toujours des questions sur ces élections, mais je pense que c'est, comme vous parliez tout à l'heure d'un parlement chinois ou russe, on en est quasiment là. Je veux dire, ça paraît complètement surréaliste de se retrouver avec une telle majorité issue de on ne sait où. On a vu des champions habituels qui n'ont pas été réélus, on a eu des grandes surprises un petit peu partout, on a des scores staliniens, on a des choses qui sont vraiment très 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 étonnantes dans ce scrutin. Et de nouveau, si l'opposition soudainement se dit nous on va boycotter, qu'est-ce que vous voulez que ça change? S'il pèse 50 ou 60 sièges, mettons même 80 sièges sur 500, ça ne changera strictement rien. Donc ça, c'est le grand danger de cette majorité-ci, c'est qu'en fait, on a un homme qui a absolument les mains libres avec une apparence de jeu démocratique.
Merci.
De nouveau, si Félix Tshisekedi, si Félix Tshisekedi veut utiliser cette arme pour le développement de son pays, c'est très bien. S'il s'agit simplement de revoir la constitution pour s'installer plus longuement au pouvoir, c'est une catastrophe. Et ça ne représente pas, je pense, le rôle d'un président de la République.
Merci. Albert Kyungu, pour vous, si l'opposition décide de participer aux travaux de cette Assemblée nationale, quel serait son sort dans un hémicycle où pratiquement Ensemble pour la République serait seul face à la forte majorité de l'Union sacrée? Et à quoi pourraient aboutir, n'est-ce pas, les initiatives d'Ensemble si elles n'ont pas l'appui, n'est-ce pas, des députés de l'Union, de certains députés de l'Union sacrée?
Prendre une telle option, ça serait une énième bourde de l'opposition congolaise.
Quelle option?
L'option de boycotter, de ne pas aller dans les institutions ou de ne pas siéger.
Non, là nous sommes maintenant dans l'option où l'optique où l'opposition accepte, n'est-ce pas, de participer à ces travaux. Et quel pourrait être son sort? Et quelles seraient ses marges de manœuvre? À quoi pourraient aboutir ces initiatives parce que elle est très minoritaire?
Voilà, merci beaucoup. Dans notre pays, la loi sur l'opposition existe. Dommage que nous sommes dans une forêt législative et dans un désert juridique, disait un auteur. Donc l'opposition, déjà, il lui est reconnu un certain nombre de pouvoirs de s'organiser déjà en commissions spécialisées qui sont dirigées par l'opposition. C'est vrai, sa contribution, comme l'a dit Leclerc, ce sera diminuée au niveau numérique. Mais l'opposition, je m'imagine qu'on a connu par le passé certains acteurs de la majorité qui n'étaient pas des whist. Je reconnais un acteur majeur, paix à son âme, c'est Henri Thomas de Kondo, quand il est de l'ancien Équateur, qui était au nom de la majorité et qui disait non. Et donc, la loi organise l'opposition au sein des institutions. L'opposition a des cartouches et des arguments faire valoir. Je prends un autre acteur qui est important, qui est élu. C'est l'ancien ministre du plan. Je vois, il est élu. Il est d'ensemble. Nous avons des sérieux problèmes avec le programme PEDEL, 145 territoires. Nous attendons que de ce mandat, les chefs de l'État se consacrent effectivement aux activités qui vont transformer les conditions de vie des Congolais. Ils nous ont vanté, brandi, le PEDEL, 145 territoires. Ce ministre-là, c'est un grand technicien avec d'autres qui connaît un peu le meilleur de ce programme-là. Il peut apporter une critique constructive, puisque nous-mêmes, nous voulons que ce truc soit redynamisé de PEDEL, soit accéléré, qu'on tourne pas comme on tourne avant là. Et ces acteurs-là peuvent faire des critiques qu'ils mettent à la place publique. Ils peuvent trouver même des alliés en dehors des institutions et on peut faire avancer l'agenda. Et donc, nous pensons qu'on n'est pas déjà minorisé numériquement. Mais si elle se positionne comme une opposition républicaine constructive, elle peut jouer son jeu et jouer pratiquement un rôle de contre-pouvoir avec des arguments constructifs pour redresser cette majorité effectivement imposante qui se dessine, qui dotait la direction du pays. Donc l'opposition, dans mon sens, n'est pas la constitution et les lois. Elle doit avoir certaines commissions spécifiques qu'elle doit diriger. Ça doit être garanti. Et tous ces privilèges qui sont connus, et s'ils développent de bonnes vies, cette opposition peut avoir des amis, même au sein de la société civile, si c'est pour la cause commune. Et donc, sociologiquement, politiquement, ils peuvent toujours jouer quelque chose en termes de vote, pas seulement au niveau numérique pour peser en termes de vote de loi.
Merci Élisée Oudia. On a vécu presque la même situation entre 2011 et 2018. Évidemment, ce ne sont pas des situations similaires, mais on sait que l'opposition n'avait pas assez de sièges à ce moment-là. Mais on a vu les quelques députés de l'opposition qui étaient présents, comment ils se débattaient pour faire valoir, n'est-ce pas, leur point de vue. Même s'ils n'obtenaient pas souvent gain de cause, mais on les voyait, n'est-ce pas, se battre. Et donc, on peut conclure que dans cette législature, l'opposition peut aussi avoir un rôle à jouer.
Oui, vous l'avez bien dit, on avait une opposition, mais là on se retrouve dans un cas de figure. Personne ne s'attendait à ce qu'on ait une telle vague, une telle majorité qui frise l'insolence. Voilà, j'ai envie de dire, mais ces élections ont signé la fin de l'opposition parlementaire. Et encore, quand il faut qu'on attende, par exemple, ce qui va se passer au Sénat. Mais au regard de la Constitution, on sait que le Sénat ne joue pas forcément un grand rôle dans la gestion, dans la vision, dans la politique du pays. Mais avec ce chiffre-là, je me dis, oui, mais c'en est fini d'une opposition parlementaire dans notre pays, à moins que le président de la République, comme le venait de le dire mon confrère qui est à Bruxelles, puisse user de tous les leviers dont il dispose maintenant là pour faire jouer effectivement un rôle à cette opposition-là, pour qu'il ne puisse pas dire « oui, ben, j'ai tout le pouvoir et je peux tout faire et me passer des propositions constructives, soit-elles de cette minorité, alors une minorité assez aussi imposante ». Donc, on se retrouve dans ce cas de figure-là. Ça va être difficile pour l'opposition d'exister au sein de l'hémicycle. Déjà, à l'époque de Kabila, il y avait une majorité, mais pas avec un tel écart. Elle avait du mal à exister. Mais actuellement, avec Tshisekedi et tout ce qu'il a comme majorité, sa victoire. Et encore que là, je tiens à préciser qu'on parle des résultats de la CENI, sans pour autant dénier à l'opposition son droit de contester ce résultat, mais nous analysons sur base des résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez un président élu à 73% qui a la majorité au niveau du Parlement, j'ai envie de dire également comme l'autre confrère, mais il va servir à rien au sein de l'Assemblée. Et encore une chose, la deuxième lecture que je fais par rapport à cette opposition, est-ce qu'on aura une opposition ou des oppositions? Parce que là, après la publication des résultats provisoires des législatives, on voit que ceux qui se plaignent le plus, ce ne sont pas l'opposition incarnée par Ensemble, Moïse Katumbi et consorts. Ceux qui se plaignent actuellement, c'est l'Union sacrée. C'est ceux qui ont reconnu l'élection au la main de Félix Tshisekedi qui aujourd'hui sont en train de se plaindre des résultats de législatives. Alors, est-ce qu'ils vont par la suite se constituer également en une opposition ou en des oppositions, mais pour quelle finalité? Parce qu'au regard de chiffres, comme je l'ai dit tantôt, vous avez AFDC qui, en 2018, avait, je crois, un peu plus de 44 députés qui a régressé aujourd'hui avec moins de 36. Vous avez l'UNC, je crois qu'il a un peu progressé. Vous avez le MLC qui a régressé encore, je crois qu'il en avait 22, il a régressé. Le seul parti qui a réussi à faire un bon en termes de sièges, c'est l'UDPS qui, je pense, est passé, qui a carrément doublé ce nombre de députés, et sans compter ces partis alliés qui ne sont pas dans l'Union sacrée. Donc, est-ce que ces oppositions-là vont faire basculer la majorité acquise de l'UDPS ainsi que de ses alliés? Je ne vois pas non plus, parce que les mettre ensemble, UDPS, Ensemble de Moïse Katumbi, non pas UDPS, MLC, AFDC, Ensemble de Moïse Katumbi, non mais ils atteignent même pas 120 députés. Donc d'une manière ou d'une autre, l'UDPS, Tshisekedi, Félix Tshisekedi, a la mainmise sur la présidence parce qu'il a été élu, mais également sur l'Assemblée nationale, et tout dépend de lui. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut montrer à la face du monde, écoutez, on est une démocratie et que la minorité a droit de citer et on peut prendre en compte les propositions de cette minorité? C'est à lui de nous montrer, mais il peut le montrer. Il ne doit pas attendre carrément la formation du gouvernement. Je me rappelle je suis en train de relire la lettre des États-Unis qui appelait à une ouverture, d'où l'importance de ce discours qu'il va tenir. En 2018, on se rappelle de la main tendue qu'il avait faite à Fayulu dès son discours d'ouverture. Est-ce que ça va être le cas lors de son discours d'investiture, d'investiture? Est-ce qu'il y aura cette main tendue de Félix Tshisekedi à l'endroit de cette opposition qui, au regard de tout ce qui se passe, au regard de résultats, au regard de tout ce qu'il y a eu comme fraude, ça ne vient pas de moi, ça vient de la CENI qui parle de la fraude, au regard de ces contestations, méritait quand même plus, mais qui aujourd'hui se retrouve avec moins des députés, est-ce qu'il ne mérite pas une certaine considération venant de la part du président de la République? Donc je reste, on va être très attentif à ce qui va être dit par Félix Tshisekedi lors de son discours d'investiture. C'est à lui de donner le cap. Comment la démocratie va continuer de fonctionner ici en République démocratique du Congo avec une telle majorité et une telle minorité?
Merci. On prend une petite pause en écoutant I Have Dream de Abba et on revient juste après.
A fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time.
C'était I Have Dream du groupe ABBA, ce groupe musical suédois qui a fait parler de lui dans la décennie 70 et la décennie 80. Je rappelle que nous avons dans cette émission Élisée Odia, elle est journaliste indépendante, Albert Kyungu, membre de la société civile, il est coordonnateur du conseil régional des organisations non gouvernementales de développement au Kassai Central, et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Hubert Leclerc, il est journaliste au journal La Libre Belgique. Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023, la RDC et la Zambie se sont neutralisées mercredi sur le score d'un but partout au stade de Laurent Mpoku de San Pedro. Cette rencontre comptait pour la première journée du groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. De nombreux Congolais ont regretté de voir leur pays partager les points alors qu'il a dominé son adversaire du jour pendant tous les matchs. On rappelle que les Léopards de la RDC joueront leur deuxième match ce dimanche 21 janvier contre le Maroc à partir de 15h heure de Kinshasa. Élisée Odia, vous avez opté pour ce sujet, on peut savoir pourquoi?
Ben déjà parce que je suis en Côte d'Ivoire et déjà parce que je suis là, j'essaye de voir ce qui s'y passe, pas seulement sur le terrain mais en dehors du terrain. Parce que effectivement la RDC est également qualifiée, il faut pas qu'on l'oublie, on a eu du mal à se qualifier pour cette phase finale de la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire, on avait très mal démarré cette CAN mais après on s'est ressaisi et pour arracher cette qualification, c'est qui était une bonne chose, une fierté. et aussi c'est vraiment constater comment est-ce que l'Afrique peut également arriver à organiser, mais aussi à bien organiser certains événements. Moi, je ai évalué cette première semaine de la Coupe d'Afrique en termes de résultats, mais aussi en termes d'organisation. Je me dis, voilà, en termes d'organisation, la Côte d'Ivoire n'a rien envié à certains pays qui ont organisé la CAN avant ou la Coupe d'Europe. Et je me dis peut-être aussi, si c'est pas trop exagéré, que la Côte d'Ivoire est en train de mettre la pression aussi sur la France qui va, par exemple, organiser les Jeux Olympiques, parce que tous les ingrédients, ils ont mis le petit plat dans les grands. Les infrastructures, il n'y a rien à dire. On en parlait tout à l'heure. Et ici, en parlant des attentes des Congolais à l'endroit du président Tshisekedi qui venait d'être réélu, je dis, mais oui, les infrastructures. Parce qu'avec les infrastructures, là, c'est que réussissent à faire présentement les Ivoiriens, c'est en grande partie à cause des infrastructures. Et ils n'ont pas lésiné sur les moyens en termes de relier toute la Côte d'Ivoire par route, par exemple, parce que tout le monde ne peut pas prendre l'avion. Et beaucoup, moi, je suis venue par bus d'Abidjan à San Pedro et j'étais avec beaucoup de Marocains dans le même bus. Voilà, c'est encourager cette intégration d'abord nationale avant de penser à l'intégration sous-régionale puis internationale. Et je me dis qu'il n'y a pas de honte à copier ce qui se fait de mieux, pas seulement loin de nous en Occident, mais tout près de chez nous. Vous avez des pays africains qui investissent énormément en termes d'infrastructures parce qu'ils ont compris que les infrastructures boostent forcément le développement. Et moi, ce que j'ai vu ici, ça c'est vraiment en dehors du stade d'abord, en dehors du terrain de foot, c'est impressionnant, des stades magnifiquement construits, des routes magnifiquement construites. Donc, c'est à féliciter. Et puis, une ambiance, voilà, quoi. C'est la fête. La Côte d'Ivoire est en train de nous montrer que, écoutez, c'est le foot, oui. C'est la CAN, oui. C'est un jeu à plusieurs millions de dollars, oui, ou millions d'euros, oui, millions de francs, milliards de francs, oui, mais ça reste une fête africaine, et la fête, c'est une preuve que les Africains, ils savent fêter. Ça, c'est en dehors de terrain, et sur le terrain, c'est vrai, on était déçus de ne pas gagner le 3 premiers points, parce que c'est toujours mieux d'entamer par une victoire de telles compétitions, ça vous laisse une marge de manœuvre, même si ça ne garantit pas la qualification au prochain tour, mais au moins ça vous permet d'aborder sereinement, sans pression, les prochaines rencontres. C'est vrai qu'on s'attendait on voulait cette victoire, mais en même temps on pouvait sentir la pression des joueurs, vous savez. Une pression mise aussi, contribuée en grande partie par les réseaux sociaux avec ce fameux slogan « Surveiller le fleuve ». Donc du coup, Samy, à mon avis, il y a eu une pression chez les joueurs, mais rien n'est perdu. C'est vrai que le dimanche, les Léopards de la RDC vont affronter le Maroc, qui a toujours été notre bête noire. Hein. Je n'ai pas lu les statistiques, mais on n'a jamais, mais je pense qu'on a toujours eu du mal à gagner face au Maroc. Mais qui sait, peut-être ce dimanche, ça va être notre jour de gloire. On pourra faire face voilà, au lion d'Atlas, je crois. Merci. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle, je pense. Ouais. Donc, c'est comme ça. Et puis, le jeu, il est bon. On a des équipes hyper motivées. Il n'y a plus de petites équipes ici.
Merci. Albert Kimou, à votre avis, parce que nous parlons de cette rencontre, n'est-ce pas, qui est attendue entre la RDC et le Maroc, à votre avis, que devrait faire le léopard de la RDC ce dimanche pour qu'ils espèrent, n'est-ce pas, défier les lions d'Atlas?
Ah oui, tous les Congolais souhaitent qu'on joue la vengeance. Le Maroc a été toujours cette bête noire sur notre parcours, et les dernières rencontres, ça nous a donné... le bilan que ça nous a donné, on souhaite que les Congo puissent prendre vengeance. C'est vrai que la première sortie était pratiquement un raté. On souhaite que les léopards puissent redonner du sourire aux Congolais. On sait dans quelles conditions ils se sont qualifiés. C'était un mauvais départ. On a anticipé, tenait un peu, et par la suite on s'est ressaisi. Les Congolais souhaitent que qu'on mette tout en marche, que les gars puissent mettre les maillots, qu'il est donc comme ça des souris. Le sport, on a vu qu'il n'a pas de petites équipes. On peut se faire beaucoup d'illusions. Les équipes maghrébines nous posent toujours de fil à tordre, tout ça. Mais on a vu qu'on a défié l'Égypte, on a défié la Tunisie. Ensuite, pourquoi pas les Congolais n'ont pas défié le Maroc? Il n'y a pas un temps de...
Merci Hubert Leclerc. Qu'est-ce que cette CAN vous inspire quand vous voyez l'engouement du public, quand vous voyez la détermination des différentes équipes?
Alors ça fait un bien fou de voir, d'abord parce qu'il fait froid, terriblement froid ici en Belgique, et ça fait un bien fou de voir ces images. Ensuite parce qu'on se rend compte que beaucoup de joueurs qui jouent dans le championnat belge se retrouvent là-bas, donc c'est toujours assez gai de les revoir sous un autre maillot. Et puis c'est surtout gai de voir en effet cette puissance du foot. Et alors on rêve toujours ici en Belgique évidemment de voir prochainement un match Belgique-République démocratique du Congo. Puisque bon, la star belge s'appelle Romelu Lukaku. Et donc c'est vrai que déjà lors de la dernière Coupe du Monde, si le Congo, alors c'était déjà contre le Maroc, avait réussi à se qualifier, on aurait eu un Belgique-Congo au Qatar, et ça je dois vous avouer que ça mettrait une ambiance tonnerre de Dieu ici en Belgique, parce que c'est vrai qu'on a énormément de points communs, qu'on a pas mal de joueurs dans notre championnat qui sont des Congolais d'origine, on va dire, et que c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs, et que ce serait vraiment très très gai si on pouvait voir un jour ce match se dérouler.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Élisée Odia, Albert Jung et Hubert Leclerc. Merci aussi à Willem Lungamba qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, Didier Zadi et d'Hervé Voka sous la supervision des Martin Sebujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 20h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Fievre Mondo, développé Joker, chanson sortie en 1981 dans l'orchestre Zaïko Langalanga, et on se retrouve le samedi prochain.
Onda tika kole lava, longora maina biso atandele, na pena kolo karabi. Mara sambela pa kutu na moyo, na kete kete ya tupela, na longora masumore. Ibo songa na la mukara sambela ka, zambe ya benisa pena, na pena koma moto. Pelini moto gata kobo pekizi kobo kamara gata kobo keina na koyanga boli kore la koyo e bali yoyo na damu na leba riba yoyo ona le la bongo bongo no kola moto ate ona le la bongo.
Tu le monde, Aba bengi ngai, sheli na ngakomwe, mama ngakomwe, biso bana ye, na lele, na moleli ogo.
Tu le monde, 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 tu le monde,
Mi corona va a morir.